Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. La génétique humaine a un énorme champ ouvert devant elle, au plan fondamental, en coopération avec les autres disciplines biologiques et médicales. Comme ces dernières, elle devra apprendre à gérer l'énorme masse d'informations issues des projets génome et post-génome. Une bonne partie de nos chercheurs devront être experts dans des approches bio-informatiques, mais la réflexion et la génération d'hypothèses et de protocoles expérimentaux innovants auront toute leur place en s'appuyant sur ces bases de données foisonnantes. Le domaine de la génétique humaine a également des implications qui le rendent particulièrement exposé aux dérives interprétatives, et les applications doivent être soigneusement évaluées et discutées, et pas seulement par les spécialistes. Jean-Louis Mandel, leçon inaugurale prononcée le jeudi 13 mai 2004. Jean-Louis Mandel, bonsoir. Vous êtes titulaire de la chaire de génétique humaine au Collège de France depuis le 13 mai 2004, date de votre leçon inaugurale intitulée « Gènes et maladies, les domaines de la génétique humaine » qui est publiée aux éditions Fayard. Vous avez dirigé jusqu'en 2006 l'Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, qui est l'un des plus prestigieux au monde. L'équipe de recherche que vous dirigez se consacre depuis 1982 à l'analyse de maladies génétiques et votre laboratoire a identifié une dizaine de gènes responsables de maladies héréditaires affectant le système nerveux ou le muscle. Vous avez, avec votre équipe, fait de nombreuses découvertes incontournables qui ont permis de comprendre l'évolution d'un certain nombre de maladies génétiques importantes, comme par exemple la maladie très invalidante de Huntington, le syndrome du X fragile ou encore l'ataxie de Friedreich, une pathologie neuromusculaire liée à une atteinte du système nerveux. On vous doit également ce qui est fondamental dans les maladies génétiques, des tests pour le diagnostic et le conseil génétique. Vous avez également découvert un nouveau type de mutation, une expansion instable de répétition trinucléotidique responsable du syndrome de retard mental avec X fragile, qui est la cause la plus fréquente de retard mental familial. Nous allons donc avec vous, Jean-Louis Mandel, entrer plus en avant dans ces pathologies et dans les perspectives nouvelles ouvertes par vos travaux, mais je voudrais d'abord savoir comment vous procédez concrètement face à une maladie génétique.
La recherche sur les maladies génétiques, en fait, c'est une recherche qui part au départ des malades et de leur famille. C'est-à-dire qu'on commence par étudier le génome du malade et de sa famille. C'est toujours très important d'avoir l'ensemble de la famille.
C'est-à-dire bon, les parents, les grands-parents.
Ça dépend. Si
qu'est-ce qu'on appelle la famille en biologie
dans certains cas. Alors, tout dépend du type de maladie, du mode de transmission de la maladie. Dans certains cas, ça va être juste, effectivement, les frères et sœurs et les parents. Qu'ils soient, ceux qui ne sont pas atteints sont aussi importants pour l'étude que ceux qui sont atteints parce que le génome, c'est 6 milliards de lettres qu'il faut décrypter et trouver l'erreur ou les erreurs qui sont responsables de la maladie. Et quand on a trouvé quelque chose, on va comparer à ceux qui ne sont pas atteints pour être sûr qu'effectivement, ce qu'on a trouvé chez le malade, c'est bien ce qui est responsable de la maladie. Mais il y a d'autres types de maladies qui ont des modes de transmission différents. Et notamment, vous avez fait allusion à ce syndrome qu'on appelle le retard mental avec X fragile, où là, la mutation peut, se balader à travers une famille, des familles très éloignées. Et quelquefois, c'est des familles où on va analyser des branches qui même quelquefois ne se connaissent même pas, de proche en proche, on va analyser la famille.
Ça peut remonter à combien de générations, par exemple 3-4
Ça peut remonter à 3-4 générations, ah ouais. Oui, absolument. Alors ça devient de plus en plus difficile, ah, évidemment, oui, c'est-à-dire qu'on monte et on redescend. Mais effectivement, donc, on part des malades et de leur famille, c'est-à-dire que d'abord il faut une étude clinique pour bien définir de quelle maladie on pense qu'ils souffrent, quelles sont les caractéristiques cliniques. Et puis on essaye, en analysant le génome, de trouver dans ces 6 milliards de lettres de l'alphabet du génome. Hein. Alors en fait, souvent on dit 3 milliards, mais simplement nous avons deux copies du génome. Chaque copie fait 3 milliards de lettres. On a une qui vient du père, une qui vient de la mère. Donc ça fait en fait 6 milliards en tout. Et quelquefois, pour certaines maladies, c'est une lettre sur les 6 milliards qui est erronée qui peut être responsable d'une maladie absolument tragique.
Par exemple, dans quel type de maladie ?
Par exemple, la maladie de Huntington. Alors, la maladie de Huntington, c'est une des maladies, probablement, que je trouve les plus tragiques qui soient, qui est une maladie où les personnes qui vont la développer sont totalement normales jusqu'à l'âge de 35, 40, 45 ans. Et s'ils ont une certaine mutation très, très particulière, petit à petit, des neurones dans certaines parties de leur cerveau vont dégénérer, ce qui fait qu'ils vont perdre progressivement le contrôle des mouvements. Ils vont avoir un déclin cognitif, c'est-à-dire une démence progressive. Et tout ça, ça dure 10 à 15 ans, ils deviennent grabataires. Alors, on peut dire que c'est déjà terrible. Mais en fait, ce qui est le plus terrible, c'est que comme ils sont porteurs de cette mutation, mais qui reste silencieuse pendant 40 ans, ils ont eu des enfants sans se savoir malades. Or, en moyenne, un enfant sur deux va développer la même maladie. Et ils auront pu voir chez leur père ou leur mère atteinte la progression de la maladie.
C'est terrible.
Et donc, quand on ne savait pas quelle était la mutation, si on avait fait le diagnostic de la maladie, chacun des enfants se disait, voilà, j'ai 50% de risque de développer ça. Est-ce que... Mais en fait, 50%, c'est soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Et à l'époque, on n'avait aucun moyen
de savoir. Savoir.
Mmh. Alors, en 1993, effectivement, la mutation a été identifiée. Et on peut faire maintenant le diagnostic, non seulement des personnes atteintes, pour savoir est-ce que c'est bien la maladie de Huntington dans les formes débutantes, mais on peut faire du diagnostic présymptomatique. Et ça, c'est une des choses qui a beaucoup... disons, concerner les généticiens, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire un tel diagnostic alors que pour le moment, on n'a aucun moyen en fait, d'enrayer la progression de la maladie.
C'est ça, on peut juste savoir qu'elle aura lieu.
On peut juste savoir qu'elle aura lieu. Simplement, dans une famille, effectivement, ça veut dire qu'à l'un, on va dire ben, ça va, vous êtes bon, vous n'avez aucun risque, mais à l'autre... On va dire, ben voilà, dans 5-10 ans, on ne sait pas trop quand, parce que c'est variable, vous allez développer ça. Et lui, il a vu comment ça se passait. Et c'est la chose où, après avoir beaucoup discuté, il a été convenu que la décision de faire un tel diagnostic, qu'on appelle présymptomatique, est de la responsabilité de la personne à risque.
Oui,
et
bien
juste
sûr.
À elle. Absolument. Ni à son médecin... ni à son confesseur, ni même à son époux ou son épouse, ou à ses parents. C'est à lui de décider, après avoir été informé de ce que c'est la maladie, si par hasard il avait besoin de cette information, et de décider si oui ou non il veut un tel diagnostic présymptomatique, ou du moment où il le veut. Et peut-être qu'à 25 ans, ne souhaitera ne pas avoir un tel diagnostic présymptomatique et à 35 ans, oui.
Jean-Louis Mandel, est-ce que les maladies génétiques sont très répandues? Est-ce qu'elles touchent beaucoup de gens?
La plus fréquente en France des maladies génétiques, qui est la mucoviscidose, c'est 1 sur 2500 ou 3000. Alors la sclérose en plaques, ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies dites communes. Communes parce que la sclérose en plaques, c'est, je crois, environ 1 sur 1000. La sclérose en plaques, c'est quand même quelque chose d'encore plus fréquent. Mais surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle des maladies multifactorielles. Alors, ce nom barbare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des maladies où il y a une combinaison de causes environnementales, d'une part, que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et d'un terrain génétique, mais qui n'est pas juste un seul gène, mais la combinaison de variations dans plusieurs gènes, quelquefois un très grand nombre de gènes, qui fait que nous sommes tous prédisposés ou au contraire protégés contre certaines maladies. Et donc, en fonction de combinaisons génétiques, on va pouvoir être, je ne sais pas moi, prédisposé au cancer du côlon, mais au contraire protégé de la maladie d'Alzheimer. Ça va être la même chose, je dirais, avec le risque d'infarctus du myocarde, qui est à la fois dépendant de facteurs d'environnement, c'est-à-dire du mode de vie notamment.
Bien sûr.
Est-ce qu'on fume, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, mais aussi de prédispositions génétiques, mais qui ne sont pas dans un gène. Ce qu'on appelle les maladies génétiques proprement dites, c'est des maladies où le défaut génétique est localisé dans un gène et il est causal. C'est-à-dire que si vous avez la mutation responsable de la maladie de Huntington, vous aurez, à un certain âge, la maladie de Huntington.
Voilà.
Si vous n'avez pas cette mutation, vous n'aurez jamais la maladie de Huntington. De la même manière pour la mucoviscidose, si vous avez deux copies du gène, si les deux copies ont une mutation, une erreur, vous allez développer une mucoviscidose. Si vous n'avez pas de mutation dans ce gène, vous n'aurez jamais de mucoviscidose. Alors que les maladies dites multifactorielles, c'est des prédispositions et donc on n'est pas en train de prédire oui
D'accord.
ou non, c'est simplement un risque plus ou moins élevé.
Mais comment savoir ce genre de choses? Parce que maintenant, ça devient presque une mode. Quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, maintenant, il semble que beaucoup de femmes, y compris une actrice célèbre, se fassent opérer des seins pour éviter d'avoir un cancer génétique, etc.
Voilà.
Donc, c'est quand même des questions qui sont sur la table actuellement.
Oui, absolument. Enfin. Dans le cas, alors, de l'actrice dont vous parlez, c'est une forme un peu particulière de risque de cancer du sein qui, elle, est effectivement quasiment causale. C'est-à-dire que quand vous avez... Il y a deux gènes qui s'appellent BRCA1 ou BRCA2, breast cancer 1 ou 2. Et si vous avez une mutation dans l'un de ces deux gènes, une femme va avoir un risque de environ 80% de développer un cancer du sein avant 70 ans.
Donc elle a bien fait de se faire opérer, c'est ça?
Alors, par exemple, en France, on fait beaucoup moins de ces types d'opérations. Aux États-Unis, ils sont plutôt partisans. En France, on conseillerait plutôt de faire une surveillance. Par contre, ce qu'on conseillerait, c'est de faire une ovariectomie à l'âge de 40 ans, parce qu'en fait, cette même mutation entraîne à la fois un risque de cancer du sein et un risque du cancer de l'ovaire. Et si vous voulez, on estime qu'à 40 ans, un ovaire, on peut l'enlever si c'est le prix à payer pour éviter d'avoir très très grand risque d'avoir un cancer de l'ovaire. Pour les seins, c'est vrai qu'en France, on va plutôt conseiller une surveillance plutôt que quelque chose d'aussi drastique que effectivement l'ablation des seins. Ceci dit, ça dépend aussi beaucoup du vécu dans la famille, c'est-à-dire combien d'autres femmes dans la famille.
Là, il semblait que dans le cas de cette actrice, la mère,
la
sœur de la mère,
si vous voulez, si,
soit morte,
si vous avez deux ou trois personnes dans la famille qui ont eu assez jeunes un cancer du sein qui n'a pas pu être enrayé, c'est plus difficile à dire qu'une surveillance, ça suffira. Tandis que s'il n'y a pas une histoire familiale aussi lourde, les femmes peut-être seront plus ont tendance à faire la surveillance.
En 1991, vous avez découvert un nouveau type de mutation, une expansion instable de répétition trinucléotidique responsable du syndrome de retard mental avec X fragile, qui est donc la cause la plus fréquente de retard mental familial. Jean-Louis Mandel, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette mutation ?
Le syndrome X fragile, c'est quand il y a cette mutation qu'on a identifiée en 1991, quand elle est présente dans une famille, eh bien, en fait, on peut remonter à travers des générations, à travers des cousins, des petits-cousins, etc. Et ça peut être responsable de retard mental chez des personnes qui ne se connaissent même plus parce que cette mutation...
Ça remonte trop loin.
Oui, en fait, pourquoi ? Parce que cette mutation, elle a deux formes. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est cette mutation, puisque vous avez des répétitions trinucléotidiques. Je vous avais dit que le génome est écrit dans un alphabet en fait, de quatre lettres, A, C, G, T, et à un endroit du génome, sur le chromosome X, il y a un gène où il y a une séquence qui est répétée, CGG, 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 etc. Et cette répétition... Il y en a, chez vous et moi, entre, disons, 10 et 40 ou 50. Mais cette répétition peut être instable, et un peu comme quand, si vous laissez votre doigt sur la touche de l'ordinateur, vous voulez taper A, puis vous le laissez un peu trop longtemps, ça fait A. Et bien là, tout d'un coup, le génome commence à faire CGG, 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 et au lieu d'en avoir... 30 ou 40, il y en a avoir 60, 80, etc. Et alors, il y a deux choses. Entre 50 et 200, ça va être silencieux. C'est-à-dire que les personnes qui ont entre 50 et 200 n'ont pas de retard mental. Mais quand c'est une femme qui porte ça, elle a un risque très important qu'elle passe à la génération suivante quelque chose qui fait 300, 500, 1000... Et ça entraîne l'inactivation du gène qui est à cet endroit-là, et ça entraîne le retard mental. Et le fait que là, ce qu'on appelle cette prémutation, donc quand on est entre 50 et 200, où c'est silencieux, comme c'est silencieux, ça peut se transmettre sur plusieurs générations, sur plusieurs branches de la famille, sans qu'il y ait de retard mental. Et puis tout d'un coup, ici, là... Mais une femme qui a un enfant avec retard mental avec X fragile, elle a un risque sur deux que l'enfant suivant ait également ce retard mental, etc. Donc ça finit par donner des familles où on voyait beaucoup de cas, mais quelquefois dans des branches très éloignées, des cousins au deuxième degré, de personnes avec cette forme de retard mental. Donc si vous voulez, c'est plus rare que la...
Ça se comment
Alors, ça se manifeste dès, je dirais, assez tôt, déjà par un retard de langage. Et puis, c'est des enfants qui ont un comportement un peu particulier, avec des caractéristiques souvent un peu autistiques. Ils vont taper dans les mains, ils vont faire des choses un peu, dire des mots répétitifs. Et puis, ils ont beaucoup de difficultés à apprendre à parler, donc... Il y en a qui arrivent à apprendre plus ou moins bien à écrire, il y en a qui n'arrivent pas.
Donc leur destin est scellé du côté des institutions.
C'est quand même une déficience intellectuelle en général importante chez les garçons. Chez les filles, c'est un peu moins grave en général. C'est parce que c'est sur le chromosome X. Et alors, petit cours de génétique, les hommes n'ont qu'un seul chromosome X. Donc quand il y a un pépin sur le chromosome X, ils n'ont rien pour compenser. Les femmes ont deux chromosomes X. Donc, s'il y a un pépin sur un chromosome X, l'autre est normal et permet de compenser soit totalement, soit partiellement. Mais donc, pour revenir donc à ce retard mental avec X fragile, on a commencé à travailler là-dessus en 1983.
Ah oui.
En commençant justement à accumuler des familles avec cette maladie pour pouvoir comparer leur génome et petit à petit arrive à identifier le gène et la mutation. Mais à l'époque, on n'avait pas les technologies qu'on a à l'heure actuelle. Et ça nous a mis 8 ans de travail à toute une petite équipe dans mon laboratoire pour arriver à identifier en 1991, et c'était très compétitif internationalement, cette répétition effectivement.
Alors, si vous voulez bien, on va prendre quelques années de cours, quelques thèmes de vos cours au Collège de France, Jean-Louis Mandel, et on va un peu examiner ce que vous avez pu dire et ce que vous pourriez d'ailleurs en dire aujourd'hui. Ce qui a changé, par exemple, 2004-2005, les maladies génétiques musculaires. Est-ce que quelque chose a bougé dans les maladies génétiques musculaires presque 10 ans maintenant?
Les maladies génétiques musculaires, donc, elles sont très connues, notamment puisque le Téléthon annuel, qui est quelque chose de très important, et l'Association française contre les myopathies, myopathie ça veut dire maladie du muscle, et c'est des maladies en fait génétiques, quasiment toujours. Qu'est-ce qui a bougé? On connaît beaucoup mieux qu'il y a 10 ans encore. Il y a 10 ans, on connaissait pour les plus importantes des maladies génétiques musculaires quel était le gène muté. Maintenant, je dirais qu'on connaît pratiquement, sans doute, pour toutes les maladies quel est le gène muté. Mais en fait, le problème qui se posait pour la première a été, le gène a été découvert en 1986, c'est la plus fréquente, qui s'appelle la myopathie de Duchenne, c'est de dire, une fois qu'on connaît le gène, on va pouvoir comprendre quel est le mécanisme de la maladie en aval de cette lésion génétique, et en comprenant ceci, on va pouvoir développer des approches thérapeutiques. Et dans les approches thérapeutiques, dès les années, je dirais, 90 ou 95, notamment au début, il y avait Axel Kahn, dont le laboratoire y travaillait dessus. C'était l'idée très simple, puisque la maladie est due à une anomalie du gène, il suffit, et que maintenant on connaît le gène, on l'a identifié, prendre une copie du gène normal et avec l'aide d'un vecteur, notamment viral, de le réintroduire dans les cellules du patient et ça devrait le guérir. Idée qui a l'air très très simple et qui en fait s'est révélée extraordinairement complexe dans la réalisation. Et à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est effectivement de ces maladies musculaires? Donc on comprend beaucoup mieux les mécanismes, ce qu'on appelle physiopathologiques, c'est-à-dire quels sont les dérèglements dans la cellule qui conduisent au fait que le muscle va dégénérer progressivement, ou quelquefois dans des formes congénitales que dès que l'enfant naît, ce muscle n'est pas fonctionnel. Et pour quelques maladies, il a commencé à y avoir des essais cliniques, mais encore très précoces, d'approches de thérapie visant à moduler l'expression du gène, mais on est, je dirais, encore loin, alors qu'on pensait que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Entre la connaissance de mécanismes, et notamment de lésions génétiques, et le fait de pouvoir intervenir du point de vue thérapeutique, eh bien, le chemin est souvent beaucoup plus difficile plus long qu'on l'imaginait. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de téléthon. Au contraire, ça veut dire que c'est pour ça que la recherche avance plus lentement, parce qu'il faut voir aussi que la recherche, elle fonctionne, en anglais on dit trial and error. C'est-à-dire qu'on voit une piste intéressante. Par exemple, au début, la thérapie génique, on se disait, tiens, il y avait un vecteur qui s'appelait l'adénovirus qui était très intéressant. Donc, les gens ont commencé à travailler là-dessus. Puis on s'aperçoit que l'adénovirus entraîne des réponses inflammatoires catastrophiques. Dans un essai clinique, il y a un patient qui était mort pour une autre maladie aux États-Unis. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, l'adénovirus, ce n'est pas ce qu'il y a de bon. Donc, il faut trouver autre chose, valider. Et comme je dis, c'est la différence peut-être quelquefois. Les scientifiques disent, voilà, on a fait une étape très importante, on a fait un grand progrès. Ils sont contents de l'annoncer à la radio ou à la télé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour le développement d'un médicament, tant que vous n'avez pas fait toutes les étapes,
oui.
Il n'y a toujours pas de médicament. Et si vous êtes bloqué à l'avant-dernière étape et qu'il y a un truc qui ne marche pas, il n'y a pas de médicament et il n'y en aura peut-être pas pendant 5 ans ou pendant 10 ans. Donc, c'est ça. Le scientifique, il voit les progrès qu'il fait sur la compréhension, le fait qu'il a peut-être sur un modèle souris de la maladie, puisqu'on peut faire des modèles chez la souris ou même maintenant, il y a des modèles chez le chien pour certaines de ces myopathies. On peut montrer que il y a des interventions pharmacologiques ou thérapie génique qui marchent. Et puis, passage à l'homme, c'est plus compliqué que... Et voilà. Donc ça, c'est l'histoire. On a progressé sur la connaissance des maladies. Il y a des choses intéressantes sur des essais cliniques qu'on espère prometteurs, mais... Pour ces maladies dont j'ai parlé en 2006, il n'y a pas encore de traitement qui marche.
Alors, en 2007-2008, Jean-Louis Mandel, vous avez fait un cours sur l'évolution du génome humain et gènes soumis à sélection positive.
Alors ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Parce que, là aussi, donc, l'évolution technologique a fait que... Maintenant, on a pu non seulement déchiffrer les 3 milliards de lettres du génome humain.
Les 2 fois 3 milliards.
Les 2 fois 3 milliards, si vous voulez. Mais surtout, au départ, et là, ça, il faut le voir, c'était un projet qui a mis plus de 10 ans, projet international, et qui simplement aux États-Unis a coûté 3 milliards de dollars, et probablement en additionnant ce que ça a coûté en Angleterre, en France, au Japon, etc. Un projet de 4 ou 5 milliards de dollars pour séquencer un espèce de génome humain représentatif d'un peu tous les génomes. Mais comme la technologie a énormément avancé, on a de plus en plus pu commencer à analyser des génomes de différentes populations. D'abord, voir quelle est la variabilité du génome dans une population donnée et comparer cette variabilité à la variabilité du génome d'autres populations. Et c'est là qu'on s'est aperçu que d'une population à une autre, d'abord la variabilité du génome n'est pas tout à fait identique. Et je reviens d'un congrès où quelqu'un commentait, en faisant l'évolution du génome, que plus on s'éloigne de l'Afrique, plus moins il y a de variabilité dans le génome humain au sein d'une population. Pourquoi ? Eh bien parce qu'effectivement, nous sommes originaires de l'Afrique. L'homme est originaire de l'Afrique. Et donc, en Afrique, je dirais, les génomes ont eu le temps d'évoluer parce que chaque fois qu'on copie le génome, il y a des risques de d'erreurs et donc il y a des variations qui vont s'inscrire. Et puis, les populations européennes sont venues d'un petit nombre de personnes qui sont allées d'Afrique en Europe, donc avec une variabilité moins grande, puisqu'il y avait et puis c'est plus récent. Et en Asie, c'est encore plus récent. Et donc, la population... Et donc, si vous voulez, vous avez déjà, d'une population à une autre, vous voyez une différence dans la variabilité du génome. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait certaines régions du génome qui montraient que... À un moment, il y a eu un variant qui s'est mis dans cette région et qui a donné un avantage sélectif tel aux personnes qui portaient ce variant que tout d'un coup, ce variant qui était issu d'une seule personne
s'est propagé
dans une grande partie de la population. Et je donnerai un exemple que je trouve absolument, que je montre toujours à mes étudiants. Il y a deux régions dans le génome humain où les Européens n'ont quasiment aucune variation sur un grand bout de génome. Alors que ce soit les Asiatiques ou surtout les Africains, cette région est tout aussi variable que toutes les autres régions. Et ces régions, elles ont été identifiées d'une manière très, très curieuse. Il y avait un chercheur qui s'intéressait, il y a un poisson qu'on appelle le poisson zèbre, qui est un modèle très utilisé par les généticiens. Et il y a deux variants de ces poissons qui diffèrent par leur couleur, par leur pigmentation. Et il s'est demandé quelle est la variation génétique qui est responsable de cette différence entre pigmentation. Il a trouvé le gène chez le poisson zèbre. Et le poisson zèbre, ce n'est pas tellement différent de nous, c'est un vertébré. Et je dirais 80 ou 85% des gènes du poisson zèbre ont leur équivalent chez l'homme. Donc ils cherchent à voir est-ce qu'il y a un équivalent chez l'homme. Ils voient qu'il y a un équivalent chez l'homme. Et comme on venait d'étudier de manière systématique dans le génome la variabilité du génome dans différentes populations, il s'aperçoit qu'à l'endroit où il y a ce gène, il n'y a aucune variabilité chez les Européens, et c'est la région la plus extrême dans ce sens. Quelle est l'explication? Eh bien, c'est que ce gène, il est un des gènes responsables de la coloration de la peau.
Ah!
OK? Mais alors, comment se fait-il? Parce que ce que l'on peut dire, c'est que dans cette région du génome, ça a pu être démontré, tous les Européens sont descendants de la personne chez qui s'est passée cette mutation qui a en fait inactivé le gène en question. Et donc ça veut dire que puisque à partir d'une personne, ça envahit cette personne pour cet aspect, parce que à chaque fois on rebat les cartes du génome, donc notre génome est une mosaïque de tous nos ancêtres. Mais dans cette région du génome, nous sommes tous descendants, tous les Européens, descendants d'une seule personne chez qui s'est passée une mutation. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un avantage sélectif.
Oui.
Parce que d'avoir une peau plus claire quand on est en Europe. Et alors l'hypothèse, c'est que en Afrique, il y a beaucoup de soleil.
Oui.
Donc il y a beaucoup de rayons UV. Les rayons UV, quand ils arrivent sur la peau, ils sont mutagènes. Et sur une peau blanche, notamment, ils vont créer des cancers. C'est pour ça qu'on conseille d'ailleurs aux gens de ne pas trop,
si on
a la peau claire,
hein,
de ne pas se mettre trop au soleil parce que ça augmente les risques de mélanome. Donc, la peau noire fait qu'on filtre les UV et donc que si on se promène parce qu'il fait très chaud, donc on n'est pas très habillé en Afrique, et surtout, il faut dire, quand on parle de ça, c'est sur les milliers d'années qui ont précédé l'histoire de l'âme. Hein. Ce n'est pas les 15 derniers jours.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est sur les dernières. Il y a beaucoup de soleil, on n'est pas très habillé, et donc la peau noire protège contre des mélanomes. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique et qui viennent en Europe. En Europe, il y a beaucoup moins de soleil. Et le problème, c'est que les rayons UV, ils ont une autre action. Dans la peau, on a un précurseur de la vitamine D, et c'est les rayons UV qui permettent d'activer ce précurseur en vitamine D active. Quand on n'a pas assez de vitamine D, et alors évidemment, on peut en prendre en tablette, mais il y a 1000 ans ou 2000 ans, on n'en prenait pas.
Quand on était enfant.
Oui, et puis les légumes où il y a de la vitamine D, ce n'était pas toujours disponible, etc. Si on ne transforme pas la vitamine D, on devient rachitique. Et un rachitisme sévère, ça veut dire que c'est des enfants qui mouraient de rachitisme. D'accord ? Et quand on meurt de rachitisme, on ne va pas pouvoir transmettre son génome à ses enfants. Donc, si vous voulez, dans un pays où il n'y a pas de soleil, on a intérêt et on a moins de risques de mélanome, mais on a plus de risques de rachitisme si on a une peau noire, d'accord ? Et donc, si vous voulez, visiblement, en tout cas c'est l'explication, on n'a pas la preuve absolue, mais cette pression sélective...
une hypothèse très...
Parce qu'on sait bien que tous les Européens, à cet endroit-là, ont tous la même mutation qui a inactivé ce gène et donc qui a été un des facteurs, ce n'est pas le seul, qui a éclairci la peau. Il y a un autre gène, comme ça, c'est exactement la même chose chez les Européens, aucune... Voilà. Donc ça, c'est une histoire. Une autre histoire de gène soumis à pression sélective, c'est au niveau de du gène de la lactase. Là aussi, 70% des Européens ont exactement ont aucune variation à ce niveau-là et on a pu tracer ça. Alors, quelle est l'explication ? C'est que l'homme, au début de son évolution, il avait du lait que tant qu'il tétait sa mère. Et au bout d'un an, ou un an et demi, je ne sais pas, il n'avait plus de lait. Et pour digérer le lait, il y a une enzyme intestinale qui s'appelle la lactase. Et l'organisme humain était fait que, à partir du moment où, de toute façon, vous ne buviez plus de lait, voilà, vous n'aviez plus besoin de lactase, et la régulation du gène de la lactase faisait que, finalement, à partir de l'âge de 1 ou 2 ans, il n'y avait plus de lactase dans l'intestin, ou très peu. Sauf que, au cours de l'évolution humaine, il a commencé à y avoir des populations pastorales qui ont élevé des chèvres, etc., et qui ont trouvé que le lait des chèvres ou des vaches, c'était quelque chose de très nourrissant, etc., et que c'est devenu une partie importante de l'alimentation. Sauf que les gens qui n'ont pas de lactase digèrent très mal le lait, et donc ça va leur donner des maux de ventre, etc., et donc ils ne vont pas aimer le lait, il ne va pas vouloir en boire, c'est ce qu'on appelle les intolérants au lactose. Et si dans un pays, l'alimentation lactée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande, etc., était quelque chose d'important, les gosses qui ne boivent pas de lait vont être moins bien portants que ceux qui peuvent boire du lait. Et donc, il y a eu une mutation qui s'est produite qui fait que cette lactase a pu continuer à être produite. Et cette mutation s'est transmise à environ 70% des Européens sont porteurs de cette mutation et donc sont lactose tolérants. Et d'autres, comme moi par exemple, je suis resté lactose intolérant parce que je n'ai pas cette mutation. Ce n'est pas 100% des Européens qui l'ont, c'est à peu
donc
près
70%. Donc vous ne pouvez pas manger de fromage par exemple?
Non, le fromage ça va parce que en fait, le lactose il a été fermenté. Mais dès mon enfance, j'aimais pas boire du lait, donc j'en ai pas bu. Donc heureusement, parce que je suis grand amateur de fromage. Donc ça ne concerne que vraiment le lait frais, si vous voulez.
D'accord.
Enfin, le lait. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans différentes régions d'Afrique, selon que la population des régions où il y a des populations relativement homogènes, c'est-à-dire parce qu'elles ne bougent pas, parce que c'est des tribus qui se marient entre elles, etc. Si c'est des gens qui élèvent des animaux où il y a une alimentation lactée, on va trouver d'autres mutations qui font qu'il y a de la lactase qui s'exprime. Et dans ceux qui, au contraire, sont des chasseurs-cueilleurs, où il n'y a pas d'alimentation lactée, il n'y a pas. Donc, à chaque fois, si vous voulez, il y a eu une pression pour adapter le génome à l'environnement.
C'est magnifique. Donc, ça veut dire que le corps, au fond, prend acte...
De l'environnement.
De l'environnement,
alors,
des transformations.
Si vous voulez, en fait, c'est la génétique, c'est l'exemple du darwinisme, puisque, en fait, si vous voulez, chaque fois qu'on duplique notre génome en le passant à nos enfants,
oui,
il y a des variations qui s'installent. La plupart de ces variations n'ont pas d'influence. Quelques-unes peuvent entraîner des maladies génétiques terribles. Donc elles vont être perdues rapidement, parce que si ça entraîne une maladie génétique où la personne meurt avant de pouvoir avoir eu d'enfant, cette mutation ne va pas se transmettre. Et puis, de temps en temps, il peut y avoir des variations qui vont donner un avantage sélectif dans un certain environnement à la personne qu'il a. Donc s'il y a un avantage sélectif, cette personne va pouvoir survivre, et surtout il faut penser à toutes ces générations où les gens mouraient très jeunes. Ils mouraient très jeunes, ça veut dire qu'il y en a qui mouraient avant d'avoir pu transmettre leur information génétique.
Bien sûr.
Donc si vous pouviez vivre plus longtemps, vous aviez plus d'enfants, donc vous leur aviez transmis leur génome et eux-mêmes, etc.
Donc
si vous voulez, c'est la sélection darwinienne
naturelle,
qui agit au niveau du génome en sélectionnant parmi les variations du génome celle qui, dans un environnement donné, va permettre une meilleure survie. C'est basé sur des centaines de générations. Hein. C'est pas, vous ne transformez pas, notamment maintenant à des populations de plusieurs milliards d'hommes, les choses, ça prend des dizaines et des centaines de générations.
Vous parliez aussi dans votre leçon inaugurale, mais là je trouve plus, d'une histoire de vitamine E qui était assez intéressante dans les populations d'Afrique du Nord.
Oui, alors ça c'est une petite histoire issue de recherches qu'on avait faites et dont j'avais parlé lors de ma leçon inaugurale, parce que dans les travaux qu'on a fait dans mon équipe, c'est l'une de celles où il y a pu y avoir, je dirais, une application clinique immédiate, ou en tout cas... Alors, l'histoire, on travaillait à l'époque sur une maladie neurologique. D'ailleurs, on continue à travailler dans le groupe de génétique humaine à Strasbourg sur cette maladie, qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. L'ataxie, c'est un défaut de coordination du contrôle, en fait, de la marche, mais aussi du contrôle... par exemple de l'élocution, etc. Et donc un certain type d'ataxie qu'on appelle ataxie de Friedreich parce qu'elle a été découverte par M. Friedreich. Bon, voilà. Et donc, de nouveau, je vous dis, on part des familles. Donc on demandait de plus en plus d'avoir des familles du monde entier pour essayer de trouver, c'était avant qu'on ait trouvé le gène de l'ataxie de Friedreich. Et on avait localisé le gène sur un chromosome, chromosome 9. Et en demandant de plus en plus de familles, un jour, il y a un collègue neurologue tunisien qui nous envoie les ADN de toute une série de familles tunisiennes, principe d'ataxie de Friedreich, puis on commence à étudier, et puis ça ne colle pas avec le chromosome 9. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une autre forme, visiblement, d'ataxie, et je ne vais pas aller dans les détails, on finit par découvrir assez rapidement, grâce d'ailleurs aux suggestions d'un autre collègue neurologue de Chypre, qu'il y avait une forme d'ataxie qui était quasiment inconnue, parce qu'il n'y avait qu'une dizaine de patients qui avaient été décrits dans le monde, sans même qu'on sache si c'était vraiment génétique, où on avait démontré qu'il y avait un déficit dans l'utilisation de la vitamine E. C'est-à-dire que, quand les gens avaient de la vitamine E dans l'alimentation, en fait, ils ne la conservaient pas et en fait, ils avaient un taux très très faible de vitamine E et ça entraînait effectivement ces défauts de coordination, cette ataxie, ces défauts neurologiques. Et donc, assez rapidement, on a pu identifier le gène de l'ataxie avec déficit en vitamine E, où c'est une maladie neurologique d'ailleurs qui est due à une déficience d'une protéine qui est présente dans le foie. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Le système nerveux, ça dépend aussi de ce qui se passe dans le foie, mais bon. Et on s'est aperçu qu'en fait, la majorité des assez nombreuses personnes qui avaient un diagnostic d'ataxie de Friedreich dans les pays du Maghreb, en fait, avaient un déficit en vitamine E qui n'avait pas été diagnostiqué, parce qu'en fait, personne ne connaissait cette maladie. Et qu'en fait, probablement, en donnant des très fortes doses de vitamine E, ce qui n'est quand même pas très cher, si on le donne suffisamment tôt, on doit pouvoir empêcher la progression ou le développement de cette maladie neurologique sévère. Alors, si je suis un petit peu... je dis que, en principe, c'est parce que, même maintenant, la plupart du temps, le diagnostic continue à être fait probablement trop tardivement pour qu'un tel traitement...
Ah oui, c'est ça.
Et autant, parce que c'est une fois que vous avez une dégénérescence du système nerveux...
On se rend compte que...
Éventuellement, il semble que ça peut stopper la progression. Mais c'est vrai que... Mais je crois qu'il y a des collègues au Maroc, etc., qui essayent maintenant de dépister le plus tôt possible pour pouvoir effectivement faire ce traitement qui est finalement très simple, de très forte dose de vitamine E. Donc c'est pour ça que j'avais parlé, parce que c'était un des rares exemples de recherche que l'on avait mené à bien et où il y avait en principe une traduction non seulement sur la compréhension de la maladie, mais éventuellement sur la prise en charge médicale et la possibilité de prévenir l'évolution de la maladie.
Alors, sur quoi travaillez-vous, Jean-Louis Mandel, avec votre équipe actuellement ?
À l'heure actuelle. Alors, on avait parlé de la déficience intellectuelle ou retard mental lié au chromosome X fragile. Et donc, ça fait longtemps, depuis 83, disons, que j'ai commencé à m'intéresser à la génétique de la déficience intellectuelle, du retard mental. Et à l'heure actuelle, je travaille sur deux aspects, ou plutôt mon équipe travaille sur deux aspects. L'un, l'explosion des possibilités techniques de la technologie de la génétique qui est absolument incroyable. Juste pour donner un exemple, de 1991 à 2001, pour séquencer le génome humain, projet de 4 ou 5 milliards de dollars qui a pris 10 ans, projet international. À l'heure actuelle, on a des moyens technologiques pour séquencer le génome humain chez une personne pour quelques milliers d'euros, disons 5000 euros, et ça va prendre une semaine.
Formidable.
Et on nous promet que, probablement dès cette année ou l'an prochain, c'est un jour et 1000 euros. Donc vous voyez quand même passer de 5 milliards à 5000 euros ou même 1000 euros en 10 ans, c'est une évolution technologique fantastique. Ce qui fait que, en fait, on a identifié de plus en plus de gènes qui sont responsables de retard mental ou d'autisme. Et ça, c'est une chose, l'autisme et le retard mental, c'est des choses qui sont très, très proches, superposées très souvent. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, les autismes de haut niveau qui n'ont pas de retard mental, mais quand même, une bonne partie des enfants autistes ont un retard mental. Et à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 400 ou 500 gènes qui peuvent être, quand ils sont mutés, responsables de retard mental avec ou sans autisme. Le problème, c'est que pour le moment, ça n'est pas passé encore à des applications diagnostiques pour les nombreuses familles qui ont ce problème et qui se demandent pourquoi notre gamin
il parle pas
ou il n'arrive pas, il a des problèmes scolaires ou quelquefois aussi des problèmes de comportement très très difficiles.
Ouais.
Et donc l'idée, c'est de développer des stratégies, donc c'est un peu de la recherche translationnelle pour pouvoir mieux faire ce diagnostic, pour pouvoir dire aux familles, voilà, on a trouvé la raison, et pouvoir aussi savoir, est-ce qu'il y a un risque de récurrence, parce que souvent, ils voudraient avoir un autre enfant, mais ne pas avoir un autre enfant qui a le même problème. Donc on peut leur dire, est-ce qu'il y a un risque de récurrence ? Dans certains cas, on peut dire, le risque de récurrence, il est quasi nul. Dans d'autres cas, on peut dire, le risque de récurrence, il est de 25% ou de 50%, mais on peut faire un diagnostic prénatal. Donc ça, c'est un aspect, je dirais, recherche translationnelle appliquée. L'autre, on est en train d'explorer des hypothèses sur le fait que la déficience intellectuelle et surtout l'autisme sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles. Et en fait, il y a quelques hypothèses, mais il n'y a pas vraiment de données explicatives fortes pour expliquer pourquoi les garçons ont plus de retard mental que les filles. C'est 30 ou 40% en plus. Et au niveau de l'autisme, c'est 4 à 1.
Mais parmi les hypothèses...
Alors, parmi
juste
les hypothèses,
pour,
il y avait...
dans quel sens les choses...
Alors, il y avait une hypothèse qui, à un moment, était sur le fait qu'il y avait des gènes de retard mental sur le chromosome X. Et quand c'est sur le chromosome X, comme je vous ai expliqué, les garçons n'en ont qu'un.
Oui.
Ils n'ont pas pour compenser. Alors, et donc, de dire, ben voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de retard mental... de gènes de retard mental sur le chromosome X, et donc c'est ça qui est responsable de la différence. Même pour le retard mental, ça n'explique qu'une partie de la différence, et pas tout. Et pour l'autisme, ça n'explique rien du tout, parce que le nombre de gènes qui entraînent l'autisme et qui ont été identifiés sur le chromosome X n'explique qu'une toute petite partie, vraiment fraction de l'excès. Alors, parmi l'hypothèse que on essaie d'explorer, et qui est peut-être pas politiquement complètement correcte, c'est que, en fait, ça veut dire que le cerveau masculin est pas tout à fait le même que le cerveau féminin, et que cela le rendrait plus sensible à soit des variations génétiques ou même environnementales associées au retard mental et l'autisme. Et notamment, ce qui est très peu su, c'est que vous savez qu'il y a les hormones mâles, les androgènes.
Oui, bien sûr.
Et en fait, au cours du développement fœtal ou néonatal, le testicule du fœtus masculin ou le testicule du nouveau-né masculin sécrète des androgènes. Après, ça s'arrête et il faudra attendre la puberté pour qu'il recommence. Et ces androgènes, il y en a une partie qui peuvent aller dans le cerveau et peuvent probablement moduler l'expression, le développement du cerveau. Donc, on va essayer de trouver quelles sont les cibles des androgènes dans des neurones humains pour essayer de voir est-ce que ça peut avoir des relations avec les gènes impliqués dans l'autisme, etc. Alors, on pourra peut-être terminer parce qu'il y a une autre hypothèse, mais qui est quand même liée à cette histoire d'androgène, du fait qu'il y ait des différences entre le cerveau masculin
et le cerveau féminin.
C'est un type qui s'appelle Baron Cohen qui a cette théorie que l'autisme, c'est le extreme male brain. Et en fait, c'est le cerveau, l'autisme, c'est d'avoir un cerveau masculin extrême. Et son hypothèse, c'est de dire que, en fait, quand il a fait des études dans la population normale, et quand il donne à faire les questionnaires qui correspondent aux échelles d'autisme, il s'aperçoit que les mâles sont déjà un peu plus vers l'autisme que les femmes. L'autisme étant un aspect répétitif de systématisation, etc., et moins d'intérêt pour la communication sociale. Et donc, lui, il dit, voilà, la systématisation, c'est le male brain, et l'empathie, c'est le female brain. Et que donc, déjà, les hommes sont déjà, en fait, des pré-autistes. Et donc, il ne suffit de pas grand-chose pour aller passer du pré-autisme à l'autisme. Alors que pour une femme, il y a plus de chemin à faire.
Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'hypothèse ? C'est un peu loufoque, quand même, a priori, non ?
Non, mais je pense que si vous voulez, d'abord, je pense que l'autisme, c'est une manifestation clinique qui se superimpose à, par exemple, à du retard mental, etc. Et donc, je pense effectivement que probablement, y a quand même pas mal de données qui montrent que, par exemple, pour rendre une fille autiste, il faut plus d'anomalies génétiques que pour en rendre un garçon autiste. Mais ça n'explique pas quand même pourquoi, quels sont les mécanismes qui font que c'est comme ça. Donc c'est un peu cette chose-là. Et puis c'est une théorie qui n'est quand même pas universellement acceptée, mais je trouve que c'est une théorie intéressante et il y a toute une série de données à l'heure actuelle sur la génétique de l'autisme qui vont, au moins en partie, je dirais, dans cette direction.
Cette hypothèse. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Jean-Louis Mandel, titulaire de la chaire de génétique humaine. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne de Pelchin. Présentation, Christine Goémé. La semaine prochaine, nous vous proposons un florilège des séminaires du Collège de France. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.